Bonsoir à toutes et à tous. Alors je vois qu'en Suisse, on ne se prend pas la tête. On a une approche assez simple du droit. Alors pour moi qui viens d'Outre-Quiévrain, du Nord, du Grand Nord, de la Belgique, j'ai voulu prendre au pied de la lettre le titre qui nous était donné, « Quelle liberté face à la laïcité ?» À ceci dire qu'il y aurait une réalité à laquelle nous faisons face en tant que chrétiens. La Belgique se trouve à la confluence de deux mondes culturels en Europe, le monde latin et le monde germanique. Et la Belgique a développé sa propre articulation, sa propre approche de la liberté religieuse et sa propre approche de l'accueil de l'expression religieuse dans la société. On a entendu parler de liberté, d'État, de laïcité et des lois. Alors avant qu'on ouvre la discussion avec vos questions, j'aimerais qu'on puisse avoir une approche peut-être un petit peu plus critique sur ce à quoi nous faisons face, la laïcité, avec un regard inspiré de l'expérience, de la particularité de la Belgique qui a développé en fait une autre compréhension de ce qu'est la laïcité, ce qui souvent n'est pas connu. Se pencher sur ce que signifient certains de ces mots si importants, liberté, État, laïcité et loi, quelles sont leurs racines idéologiques et culturelles, et quel rapport ces mots ont avec notre foi chrétienne et notre engagement en tant que chrétien. Et en ce faisant, je voudrais aussi parler de la situation en Belgique, qui je pense est une bonne illustration. D'abord, vous dire que si nous sommes engagés en tant que disciples, en tant qu'apprentis de Jésus-Christ, nous devons être engagés à le suivre dans le monde et pas seulement dans nos églises. Jésus a dit « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Et ça veut dire que nous avons la responsabilité d'interagir avec le monde qui nous entoure, avec intelligence, avec sagesse. Il nous faut entrer en contact avec le monde qui nous entoure. Ça veut dire aussi qu'il nous faut éviter, d'un côté, de fusionner nos valeurs et nos convictions avec celles du monde qui nous entoure. Mais de l'autre côté, il nous faut éviter aussi le sectarisme, le fait de se séparer du monde, de vouloir faire la police, de vivre dans la crainte et dans l'isolement, et puis, être gouverné par la peur. Non, trois fois non. Nous sommes libres et nous sommes appelés à être libres. Et cette liberté demande une attitude de critique, de remise en cause constante, de rejeter ce que, en tant que chrétien, nous ne pouvons pas admettre, ni concevoir, ni recevoir. De recevoir et accueillir ce qui résulte de la grâce commune, de ce que Dieu a donné à l'ensemble de l'humanité. Et puis aussi de racheter, de rédimer, pour utiliser un vieux mot, racheter les choses bonnes que Dieu nous a données et dont nous pouvons jouir comme des cadeaux que Dieu nous a faits. Alors cela étant dit, comment peut-on concevoir un des termes qui a été utilisé, celui de l'État? Et Olivier a pris du temps un petit peu pour redire l'importance de, en tant que chrétien, de voir que l'État est relatif et non pas absolu. On sort de 200 ans d'histoire où, dans beaucoup de pays, en particulier en France, l'État s'est substitué à la patrie. Et donc l'État demande une sorte d'attachement, d'affection de la part de ses citoyens qui parfois peut brouiller une conception sage qu'on doit en avoir. En philosophie politique protestante, oui, ça existe, la philosophie politique protestante, qui fonctionne avec des concepts bibliques, l'État doit être compris comme une communauté de personnes qui sont engagées à la production du droit. Une communauté de personnes qui sont engagées à la production du droit, qui définissent les lois, qui appliquent les lois et qui maintiennent les lois. Donc une communauté de personnes qui sont engagées à la production du droit, qui définissent les lois, qui appliquent les lois et qui maintiennent les lois, mais dans le but de garantir le bien commun. C'est la particularité de l'État. Elle doit garantir le bien commun, c'est-à-dire garantir le bien qui profite à l'ensemble de la société et des collectivités. Il y a d'autres types de communautés qui définissent du droit aussi. Une association, une église, arrange des règles plutôt d'ordre privé, mais celles-là ne sont pas particulièrement pour le bien commun, elles sont pour le bien de ses membres. Et l'État a ceci de particulier qu'il légifère pour le bien commun. Ça veut dire, ça implique deux choses très importantes. La première, c'est que l'État doit être impartial. L'État doit être pondéré. L'État doit être équitable et doit fonctionner dans une visée de justice. Et deuxièmement, donc l'État doit être équitable, et deuxièmement, que l'État possède sa propre sphère à lui qu'il n'est pas censé dépasser. Et la sphère de l'État se cantonne à la production du droit en vue du bien commun. Voilà un petit peu comment, bibliquement, on comprend la fonction de l'État. Il y a deux textes de référence dans la Bible, c'est la première partie du chapitre 13 de l'Épître aux Romains, et la première partie du chapitre 2 de la première lettre de Pierre. Alors, dans le modèle français, on considère que c'est la laïcité, d'ailleurs Nancy l'a très bien expliqué, on considère que c'est la laïcité qui permet la distinction des sphères dans la société, qui garantit la souveraineté de l'État, parce que l'État est souverain dans le domaine public, mais également la liberté de conscience des individus. Et on le sait aussi, le modèle français est le fruit d'une histoire déchirante, d'hostilité, de conflits sociaux et idéologiques féroces qui ont mené à l'instauration de la laïcité telle qu'on la connaît. Eh bien, en Belgique, on maintient aussi cette idée que l'État est censé garantir l'intérêt commun, le bien commun. Et cette idée a triomphé en Belgique aussi, et elle a été couchée dans la Constitution de Belgique. Elle a couché en particulier une compréhension très libérale, pour reprendre un terme qui a été utilisé tout à l'heure, très attachée à la liberté, très libérale de la liberté religieuse. L'État est séparé des autres sphères de la société. Et d'ailleurs, en Belgique, un grand nombre de missions de services publics ne sont pas assumées directement par l'État. Elles sont déléguées à ce qu'on appelle en Belgique les piliers. Pour ceux qui connaissent les Pays-Bas, la société néerlandaise fonctionne aussi de cette manière-là. Qu'est-ce que c'est les piliers? Ce sont des mondes philosophiques et religieux, des sociétés qui assument une partie des services publics, des services à la population, au moyen de partis politiques qui sont représentés, mais aussi toutes sortes d'institutions. Donc en Belgique, vous pouvez avoir une mutualité, une mutuelle de santé catholique, une mutuelle de santé libérale, une mutuelle de santé socialiste, une mutuelle de santé neutre, des hôpitaux catholiques, des hôpitaux publics, des syndicats catholiques, des syndicats libéraux. L'ensemble de la société belge est articulé selon ces piliers-là, ce qui affirme la prise de distance de l'État par rapport aux communautés et au monde philosophique et religieux. La Belgique a aussi instauré un régime qu'on appelle un régime des cultes reconnus. La séparation entre Église et État s'est faite de façon bien moins violente en Belgique, mais c'est aussi inspiré du code civil de Napoléon, puisque Napoléon a gouverné la Belgique pendant 30 ans, si vous ne le saviez pas. Et alors on a des vestiges de ces principes selon lesquels la religion a une utilité publique, et donc à ce titre peut bénéficier du soutien de l'État, d'une forme de reconnaissance. En Belgique, il y a 6 cultes reconnus. Le catholicisme, qui est largement majoritaire, qui rassemble à peu près 70-70% de la population. Le protestantisme, qui techniquement s'appelle protestantisme évangélique, qui rassemble donc toutes sortes de protestants. L'islam, le judaïsme, l'anglicanisme, l'orthodoxie, mais il n'y a pas que des cultes reconnus. Il y a aussi ce qu'on appelle des philosophies organisées. Le bouddhisme et la laïcité organisée. Et je voudrais creuser ce point-là. Alors, les cultes reconnus, dans une certaine mesure, peuvent bénéficier de soutien financier, organisationnel, juridique de la part de l'État. Une partie, pas tous, mais une partie, par exemple, des pasteurs en Belgique reçoivent leur salaire du ministère de la Justice. L'enseignement de la religion est organisé par les institutions publiques, avec le concours des églises, mais aussi l'enseignement de la morale laïque. En effet, lorsqu'on parle de laïcité, il existe un puissant courant de fond, un peu comme une sorte de fleuve souterrain, de nature plus idéologique, voire spirituelle, et qui a un impact sur la liberté que les chrétiens en Belgique ou ailleurs, certainement en France, peuvent concevoir qu'ils ont. Et cette autre conception de la laïcité est influencée par le libéralisme philosophique révolutionnaire qui a régné à la Révolution française et qui partout en Europe s'est abreuvé aux sources françaises et qui a été animé particulièrement par la franc-maçonnerie, pas uniquement, qui visait la construction d'une société plus parfaite la plus proche de la perfection et qui impliquait une forme de culte. J'ai retrouvé les traces d'un pamphlet écrit par un certain Jean-Paul Marat, qui est un révolutionnaire, et qui écrit dans un texte qui s'intitule Offrande à la patrie, dans le temple de la liberté, le texte que voici. Chère patrie, je verrai donc tes enfants réunis en une douce société de frères, reposant avec sécurité sous l'empire sacré des lois, vivant dans l'abondance et la concorde, animés de l'amour du bien public et heureux de ton bonheur. Je les verrai formant une nation éclairée, judicieuse, brillante, redoutable, invincible. Que ce soit l'intérêt de notre salut commun qui nous rassemble, que la raison décide de nos prétentions, c'est-à-dire de nos projets respectifs. Que la justice éternelle fixe nos droits et que la qualité de citoyen unisse pour toujours les membres divisés de l'Empire. Cette attitude spirituelle, on la retrouve institutionnalisée en Belgique au travers de ce qu'on appelle la laïcité organisée, qui reçoit d'importants financements publics pour ses missions de service public. Et une des missions principales qu'elle se donne, c'est l'émancipation du citoyen, la promotion de la liberté et l'engagement citoyen. Selon moi, la laïcité en Belgique offre un meilleur regard sur ce qui est une partie de la vérité sur la laïcité, dont les chrétiens belges ressentent les effets, mais en France aussi. Il existe une compréhension de la laïcité qui est anticléricale et antireligieuse, qui considère qu'une des missions de l'État est non pas de se maintenir dans sa sphère, dans sa propre sphère, mais d'émanciper les citoyens, émanciper les individus de l'emprise de la religion. Et cette conception, qui est une conception militante et idéologique de la laïcité, quasi religieuse, est souvent invoquée dans les débats publics, en Belgique en particulier, mais vous le reconnaîtrez en France ailleurs certainement, comme un motif pour viser la cohésion entre les citoyens. La laïcité est la réponse universelle pour arriver à la paix sociale et à la cohésion entre citoyens. Il y a d'un côté les laïcs qui sont les bons et les non-laïcs, les anti-laïcs qui sont les mauvais et qui, par leur religiosité ou leur soutien à la religion, sont menaçants et dangereux pour l'ordre public. Cette conception-là de la laïcité, c'est véritablement une corruption de l'idée née dans la recherche du bien commun et qui entre dans la définition de l'État, la définition biblique de l'État que j'ai donnée tout à l'heure. Mais le problème qu'on a, c'est parce qu'on utilise le même mot, laïcité, dans les deux cas. Et ça crée un mélange des genres. Et à cause de ce mélange des genres, beaucoup de chrétiens sont quelque part subjugués, comme séduits par les chants d'une sirène, subjugué par la confusion entre la liberté offerte par la neutralité de l'État et l'idée que la société devrait se construire sans Dieu. Quand l'État sert le bien commun, et notamment la liberté de conscience, que ce système en France se nomme laïcité ou neutralité dans beaucoup d'autres États, ou séparation entre Église et État, l'État accomplit la mission qu'il a et telle que définie par Dieu. Mais il existe en même temps une véritable pression sur nous, en tant que chrétiens, à considérer que la sphère publique, la société dans son ensemble, doit être laïque et quelque part protégée par des institutions ou par des défenseurs, protégée de la menace créée par les mouvements religieux. C'est pourquoi je pense, et je vais terminer par là, c'est pourquoi je pense que, en tant que chrétien, il nous faut apprendre à être critique, apprendre à discerner, à recevoir, à accueillir, à rejeter, à rédimer ou racheter. Il faut promouvoir une laïcité critique, une laïcité qui reconnaît l'arrière-fond chrétien de notre culture commune, mais qui accueille aussi la diversité, mais tout en refusant de considérer la laïcité comme une forme de culture commune qu'il faudrait restaurer ou maintenir. Je parle d'une laïcité qui respecte le lien entre liberté et foi. Il nous faut dire que notre foi n'est pas un obstacle à la laïcité, ce qui est une mécompréhension très commune. C'est aussi une approche qui va dans le sens de la convergence européenne que Nancy a mentionné tout à l'heure. Il existe une pression dans beaucoup d'États en Europe à opposer liberté et foi. Il y a aussi un phénomène qui est souvent décrié, qui est une forme d'analphabétisme religieux de la part de nos élites et de nos dirigeants, qui connaissent très mal le fait religieux et qui ont donc du mal à l'apprécier et du mal à répondre aux demandes des personnes dans ce contexte-là. Les normes européennes ont donné une version plus stricte de respect de la liberté religieuse, la liberté de conscience. Et tous les droits de l'homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement. La liberté religieuse est un droit de l'homme exactement au même titre que tous les autres. Exactement au même titre que tous les autres. Que la liberté d'opinion, la liberté d'expression, la liberté de réunion, que le droit à la vie. Cette approche-là, cette laïcité critique, c'est l'antithèse de l'idéologie anticléricale de la laïcité, qui est bien vive aujourd'hui, il faut le dire, et qui considère que la foi est à l'opposé de la liberté, et que les citoyens doivent donc être émancipés de toute religion. Alors je vous pose la question, est-ce que vous considérez que votre foi s'oppose à votre liberté? Pas sûr. Oui ou non? Ok, parce que sinon j'aurais un ou deux articles à rédiger. Est-ce que votre foi s'oppose à votre citoyenneté? Non. Alors ayez une attitude critique. Il faut remettre en question ce qu'on vous dit, les idées reçues et souvent les commentaires qu'on entend à la télévision ou à la radio. Remettez en question les idées qui vous ont transmises sur vos droits en tant que chrétien. Et puis informez-vous. La campagne Libre de le dire est une excellente opportunité de le faire et une excellente ressource. Et puis sortez de cette subjugation et soyez libre. Soyez libre. C'est à ça que nous sommes appelés. Je voudrais vous laisser avec cette exhortation de l'apôtre Pierre quand il parle de notre respect des autorités et de l'État. Comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Je répète, comportez-vous en homme libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais en agissant au contraire comme des serviteurs de Dieu. Merci.